Bonsoir, nous sommes en direct de Genève ce soir au bâtiment des forces motrices où se déroule l'un des plus grands rassemblements humanitaires. C'est retransmis à échelle mondiale. Peut-on renforcer le pouvoir de l'humanitaire dans le monde? C'est une vaste question. TEDxRC au carré, une drôle de formule que le nom de cette méga conférence qui tente en ce moment d'y répondre. Le pouvoir de l'humanitaire, nous y consacrons la deuxième partie de ce forum. Un invité de marque, le ministre des Affaires étrangères de Norvège, Jonas Gahr Støre, nous a fait l'honneur d'un entretien. La Norvège et la Suisse sont très proches dans leurs engagements humanitaires et comme Micheline Calmiret, le ministre norvégien prône le dialogue avec tout le monde, même avec les terroristes. Et pourtant, il a été une de leurs victimes, il a survécu un attentat suicide à Kaboul, c'était en 2008, et il était personnellement visé cet été par Andrés Behring Breivik lors du double attentat d'Oslo et d'Utøya. Son témoignage dans Forum, ce sera dès 18h35. Mais avant cela, l'actualité de ce dimanche 27 novembre, elle vous est présentée par Laurent Caspari à Lausanne. C'est une déculottée qu'a pris aujourd'hui l'UDC. Deux élections ratées au Conseil des États pour le plus grand parti de Suisse. Ça n'a pas passé pour Christophe Blocher à Zurich. Sa réaction dans ce forum, plus surprenant, ça ne passe pas non plus pour Tony Brunner, le président de l'UDC. Analyse d'un échec par Romain Cliva dans quelques minutes. Ballotage général dans le canton de Vaud. La verte Béatrice Métraux sort première. Elle sera en direct avec nous à Lausanne. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la succession de Jean-Claude Mermou n'a pas passionné les électeurs. Faut-il alors vraiment leur imposer un deuxième tour? Eh bien, ce sera la question à débattre ce soir. Et puis la grande actualité sportive de ce dimanche, vous l'attendez tous. La finale du Masters de Londres, c'est la 100e finale de Roger Federer. Il affronte dans exactement 30 minutes le français Joe Wilfried Tsonga. On sera en direct de Londres pour le premier échange de balles, le premier service à 18h30. Ce sera dans le cadre de notre journal des sports avec Pascal Turner. La météo, elle ne change pas jusqu'à mercredi. Vous connaissez la formule, bande nuage sur le plateau, soleil au-dessus. Les détails tout de même de Sébastien Dupéret, c'est juste avant 19h.
Forum, Nathalie Ducommun, Laurent Caspari.
TEDxRC au carré. Ouais, c'est vraiment une drôle de formule que le nom de cette conférence mondiale. Nous sommes ici en direct dans le magnifique hall du bâtiment des forces motrices. Il y a quelques pas de nous sur la scène. Depuis 16h, eh bien, 8 conférenciers des quatre coins du monde se succèdent pour partager leurs idées sur la manière de renforcer le pouvoir de l'humanitaire dans le monde. 8 conférenciers devant un parterre de politiques, des ministres, des députés d'ici et d'ailleurs qui devront eux décider si elles valent la peine d'être concrétisées, ces grandes idées. Eh bien, deux de ces conférenciers seront tout à l'heure avec nous dans ce forum. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères de Norvège, puis Patrick Chapat, un dessinateur sur la scène de l'humanitaire. Il nous rejoindra également. Enfin, vous dire que Bruno Giussiani, le grand organisateur de ces conférences TED, c'est aussi un penseur d'ailleurs. Il sera avec nous, ainsi que l'un des grands chefs de Nestlé Monde. C'est rare qu'on entende Nestlé sur nos ondes, surtout pour parler d'humanitaire. Il est aux affaires publiques de l'entreprise Christian Frutiger. Nestlé qui va porter sa pierre à l'édifice de l'humanitaire, ça amène quelques questions forcément. Alors du bon monde, vous l'aurez compris, des grandes idées ici à Genève, capitale de l'humanitaire. Mais au fond, à quoi est-ce que ça sert vraiment? Pourquoi est-ce si important de les brasser, ces idées, aussi vertueuses soient-elles, n'est-ce pas, au final, sur le terrain, dans les petites actions quotidiennes, que tout se joue vraiment? C'est le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui organise cette grande conférence. Nos invités en deuxième partie de ce forum, ce sera juste après les sports, sur le coup des 18h35. Mais tout de suite, l'actualité, elle est riche, hein, sur le front politique notamment. C'est à vous, Laurent Caspari, à Lausanne.
Oui, merci beaucoup, Nathalie Ducommun. On vous retrouve tout à l'heure, vous l'avez dit. Puis on va commencer par cette journée électorale difficile pour l'UDC. C'était aujourd'hui le deuxième tour dans plusieurs cantons concernant le Conseil des États. Un seul mandat doit être encore attribué dans le canton de Soleure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la stratégie de conquête de l'UDC est un échec, Romain Cliva.
Oui, en avril dernier, le plus grand parti du pays annonçait la couleur. Le Conseil des États allait être l'objectif de l'automne. Eh bien, au final, l'échec est d'autant plus douloureux que ce sont les figures de proue du parti qui ont mordu la poussière. Le leader historique et artisan de la stratégie électorale de l'UDC, Christophe Blocher, a été nettement battu à Zurich aujourd'hui. Il attaquait certes deux sortants, mais l'écart de voix est considérable par rapport au libéral radical Félix Gutwiller et à la verte libérale Verena Diner. Tous deux ont été réélus, donc.
Autre candidat de poids, le président Tony Brunner dans le canton de Saint-Gall.
Oui, il a subi le même sort que Christophe Blocher. La pilule est encore plus amère pour Tony Brunner. Dans le très conservateur canton de Saint-Gall, il s'est incliné face au syndicaliste Paul Rechsteiner, positionné très à gauche sur l'échiquier politique. Mais le président de l'UDC a échoué pour moins de 1500 voix sur plus de 45 000. L'UDC peut toutefois se réjouir de l'élection surprise de Peter Föhn dans le canton de Schwyz. Il est parvenu à déboulonner le démocrate chrétien Bruno Frick, présent depuis plus de 20 ans sous la coupole.
Et puis, il y a le PDC qui fait aussi partie des perdants du jour.
Oui, avec une perte de 2 sièges dans des bastions traditionnels comme Schwyz, mais aussi Saint-Gall. À Saint-Gall, justement, après le premier tour, le sortant, Eugen David, qui était au Parlement depuis 1999, s'était retiré en raison de son mauvais score. Mais son remplaçant n'est pas parvenu à revenir dans la course face au socialiste Paul Rechsteiner. À noter que dans le canton d'Uri, le sortant vert libéral a gardé son siège, de même qu'en Argovie, la sortante libérale radicale.
Romain Cliva, au final, le nouveau Conseil des États ressemblera donc pas mal à l'ancien, en fin de compte.
On n'a effectivement pas assisté à de véritables bouleversements. Malgré un léger recul, le PDC reste la première formation et le PLR la deuxième. Le grand gagnant est toutefois le Parti Socialiste qui est parvenu à remporter 3 sièges et arriver à 11 fauteuils. Quant à l'UDC, elle est en recul de 2 sièges et n'aura plus que 5 sénateurs sur 46.
Romain Cliva, merci beaucoup. Et on va se rendre tout de suite à Zurich, à notre studio de Zurich, pour vous rejoindre, Rouven Guessa. Vous avez suivi pour nous l'élection zurichoise et la défaite, on vient de le dire, de Christophe Blocher. Vous l'avez rencontré il y a quelques minutes.
Oui, Christophe Blocher qui est entré dans le centre électoral zurichois par la porte de derrière il y a tout juste 1 heure. Littéralement assailli par les médias, l'UDC déchu est arrivé bien plus tard que les 2 sortants réélus. On l'a dit, la verte libérale Verena Diener et le libéral radical Félix Gutzwiller. Christophe Blocher est donc sèchement battu. Il termine avec 90 000 voix de retard sur la deuxième, Verena Diener. Pour autant, l'UDC encaisse en argumentant que sa défaite était prévue. Écoutez.
Oh, mais c'est pas une explication. On a su qu'on n'a pas un succès. J'ai dit déjà en avance. Mais ça a été très important qu'on a une discussion pour les 2 conseillers des États. Et puis on a eu. Et puis ils ont fait des promesses qu'ils sont très importants pour l'Europe. Ils ont dit les 2. Nous sommes contre les règles que le Conseil fédéral veut, qu'on accepte les règles de l'Union européenne automatique en Suisse. Les 2, ils ont fait des promis, hein.
Avant le 23 octobre, l'UDC disposait de 7 sièges au Conseil des États. Ce printemps, le parti annonçait cette vaste offensive sur la Chambre des cantons. C'est un échec avec 5 élus UDC, soit 2 de moins qu'il y a 4 ans. Et ce soir, Christophe Blocher n'hésite pas à nier cette stratégie de son parti.
Nous n'avons pas voulu gagner les sièges. Hein. Non, pas du tout. C'est clair, on n'a pas voulu qu'on gagne. Nous avons dit, après les élections, on aura seulement 4. Après, on a 5. Et puis si Monsieur Minder, c'est aussi une chose de notre stratégie qui va être on a 6. Et puis on a 6 eu aussi il y a 4 ans. Hein. Après on a reçu encore Monsieur Abstutz et puis on a perdu. Alors ils sont 6. Mais ça n'était pas le but d'augmenter.
Mais est-ce qu'au sein de l'UDC, il ne faut pas un changement de stratégie aujourd'hui, un changement de ton pour reprendre un peu du poil de la bête?
Changer le ton.
Et la stratégie.
Bon, le temps, si vous voulez, si quelqu'un veut entrer dans notre temps, alors pas. Pas la stratégie, non. Surtout pas les domaines. Nous avons des grands problèmes dans l'asile. Vous verrez, dans les années prochaines et puis les mois qui viennent, surtout de l'Afrique, ce sont des criminels, ce ne sont pas des réfugiés. Et deuxièmement, les problèmes qu'on a avec la libre circulation des personnes. L'économie veut baisser. Et puis, si on n'est pas plus fort dans le Parlement, il faut être plus fort hors du Parlement, c'est clair. Aussi dans le Conseil fédéral. Mais s'ils disent, alors, restez en dehors, seulement avec un siège, alors il faut lutter à l'autre côté. Notre but, c'est la Suisse.
Vous-même, vous allez aller au National, effectivement, vous allez y aller, vous gardez ce siège.
Oh, c'est clair, je suis élu dans le Conseil national. Dans le Conseil national.
Vous restez 4 ans?
Oh, bon. Si je ne suis pas malade, etc., c'est clair. Pourquoi pas?
Question posée à Christophe Blocher parce qu'il n'avait même pas terminé premier de la liste UDC au national à Zurich. La vedette lui avait été ravie par la jeune Nathalie Rickli. Un changement de paradigme au sein de l'UDC zurichoise qui semble en tout cas bien amorcé ce soir.
Rouven Guessa, merci, en direct de notre studio de Zurich. Jean-François Rime, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national UDC fribourgeois. Vous avez entendu Christophe Blocher. Pareil que la stratégie de votre parti, c'était pas de gagner des sièges.
Non, le problème, c'est qu'on avait une stratégie à long terme. On sait pertinemment qu'avec 26 ou 27% d'électorat, au système majoritaire, on est battu. On gagne pratiquement toutes les élections cantonales au système proportionnel. On perd au système majoritaire. On a vu le résultat du canton de Vaud ce soir. On verra le résultat de Fribourg dimanche prochain au Conseil d'État. On connaît cette situation, mais je crois que le débat politique méritait d'être mené. Et je rajouterai une chose à ce qu'a dit Christophe Blocher, c'est qu'on va se retrouver devant une situation économique, à mon avis, extrêmement difficile, plus vite qu'on croit. Il suffit d'en lire la presse dominicale pour s'en convaincre. Et je crois que là, les grands thèmes de discussion qu'on a amenés dans la discussion sont importants.
Au final, Christophe Blocher dit, il vient de le dire, faut pas changer de stratégie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas une stratégie gagnante au vu des résultats
de ce soir. On va pas changer de programme. Maintenant, les prochaines élections, c'est dans 4 ans.
La stratégie. Non, mais c'est pas le programme.
Oui, mais la stratégie qu'on a eue, c'était justement de défendre un programme et de présenter des candidats et de faire un débat. Alors, on a deux défaites amères, à mon avis. C'est Amstutz à Berne. Ça, vraiment, c'est dommage parce qu'il était sortant. Et on a Tony Brunner qui a raté le vote pour 1500 voix. Mais Romain Clival a très bien dit, Saint-Gall est un canton très bourgeois et ces gens votent un des plus grands gauchistes de Suisse. Je connais bien Paul Rechsteiner puisque je siège depuis 8 ans dans la même commission que lui. C'est un homme très sympathique, mais politiquement, c'est la gauche de l'extrême gauche.
Jean-François Rime, vous le dites vous-même, vous venez de le dire, le système majoritaire n'est pas favorable à l'UDC, oui. C'est connu, c'est la preuve encore ce soir. Pour ça, il faut faire des alliances. Or, l'UDC a tendance à tirer un peu sur tout ce qui bouge,
c'est
y compris les potentiels alliés.
C'est pas nous qui voulons pas faire d'alliance. À Fribourg, en 2007 et en 2011, Urs Schwaller a amené toute la campagne pour Alain Berset, à tel point qu'Alain Berset était élu devant lui cette année. Alors, bon, j'ai vécu ça grandeur nature. On a une élection au Conseil d'État dans une semaine à Fribourg où on a un excellent candidat. La gauche est alliée. La gauche fait ses alliances qui fonctionnent. Et en plus, elle obtient l'appui du PDC régulièrement. Alors, on vivra avec, on défendra, ça a été dit, on défendra nos positions dans les parlements, on défendra nos positions devant le peuple par des référendums et des initiatives. Et c'est la politique. On est déçu ce soir, mais la stratégie qu'on avait sur le Conseil des États, c'était pas une stratégie de gagner 12 sièges cette année, ça on savait.
On recevait, Jean-François Rime, Adolphe Fogui, l'ancien conseiller fédéral UDC, il y a quelques jours dans Forum, qui nous disait « Maintenant, il nous faut reconquérir quelque part nos partenaires, précisément pour pouvoir avoir des alliances. » On n'a pas l'impression qu'il y a cette autocritique ce soir du côté de l'UDC.
Oui, mais je n'ai pas entendu Adolphe Fogui l'autre soir, malheureusement. Mais nos partenaires sont des gens qui perdent élection après élection. Si vous regardez les résultats, 12,3% pour le PDC, 15% pour les radicaux. Même les socialistes ont perdu de l'électorat. Par contre,
mais un système d'alliance qui
grâce
fonctionne.
À des apparentements, ça fonctionne. Voilà. Bien sûr, ben bon, moi je me trouve très bien là-dedans et je crois qu'on n'est pas prêt à faire des concessions à vendre notre âme pour des alliances tactiques et des stratégie de comité politique.
Ça veut dire quelque part que vous tirez le trait sur un certain nombre d'élus dans des exécutifs, que ce soit dans des cantons ou au niveau fédéral?
Mais bien sûr, à Fribourg, pour revenir là dans le domaine que je connais bien, il faut quand même que le PDC et les radicaux se rendent compte qu'ils n'ont plus la majorité au Grand Conseil. Et il faut quand même gérer, que ce soit dans un canton ou au Conseil fédéral, avec des majorités parlementaires. Et c'est là que les problèmes se posent.
Jean-François Rime, merci beaucoup d'avoir
été
avec nous quelques instants.
Bonne
pour soirée, réagir.
Au revoir.
À ces élections fédérales. Et on va continuer à parler d'élections, mais cette fois-ci dans le canton de Vaud, puisque c'est le ballotage général à l'issue du premier tour pour l'élection complémentaire au Conseil d'État. La candidate de la gauche, la verte Béatrice Métraux, fait la course en tête avec 44,5% des voix. Elle est suivie de l'UDC Pierre-Yves Rapa avec 40,3% des suffrages. Le centriste Emmanuel Jetta est troisième avec 10% des voix. Un deuxième tour est donc agendé au 18 décembre. Cet après-midi, déjà, les pronostics allaient montrer un rien
à
Zler.
Oui, à gauche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avait le sourire tout à l'heure. Alors qu'il s'agissait de repourvoir un siège UDC, vacant depuis le décès de Jean-Claude Mermoux, alors que cette élection était périlleuse pour la droite avec un possible changement de majorité à la clé, alors enfin que Béatrice Métraux était jusqu'ici peu connue du grand public, eh bien elle a pourtant fait la course en tête. Autant de signes positifs pour la candidate en vue du deuxième tour. À droite, on fait bonne figure à mauvais jeu et on déclare avoir encore des chances de l'emporter. Mais visiblement, l'électorat a eu du mal à se mobiliser pour Pierre-Yves Rapa, jugé trop proche proche de l'UDC blochérienne.
Alors la question qui se pose, c'est est-ce que la droite peut refaire maintenant son retard au deuxième tour ?
Eh bien, ses chances paraissent minces. Si le centriste Emmanuel Jetta se retire pour ce deuxième tour, ses voix risquent de se reporter grosso modo à part égale à droite et à gauche. La droite ne pourra probablement pas non plus compter sur les 4200 électeurs qui ont déposé un bulletin blanc dans les urnes. On voit mal pourquoi ces mécontents de droite et de gauche se remobiliseraient en masse pour le deuxième tour. Alors le seul levier encore possible à droite, eh bien c'est le taux de participation. Seuls 31% des citoyens vaudois ont donné leur voix ce dimanche. C'est la dernière carte de la droite, rappeler à ses sympathisants que cette élection peut lui faire perdre sa majorité au gouvernement vaudois et les motiver à se rendre aux urnes le 18 décembre.
Ariane Hasler de notre bureau vaudois, merci. Et avec nous dans ce studio, les deux principaux candidats, Pierre-Yves Rapin, bonsoir.
Bonsoir.
Et Béatrice Metro.
Bonsoir.
Bonsoir. Pierre-Yves Rapin, vous venez d'entendre Ariane Hasler. C'est vrai qu'avec ce score de 40,3%, c'est moins que le cumul des forces des partis qui vous soutiennent, hein, le PLR et l'UDC. Vous n'avez pas réussi à rassembler pour ce premier tour.
Bon, écoutez, j'ai réussi par contre un tour de force par rapport à ce qu'il était annoncé, puisqu'on disait que j'arriverais même pas non plus au socle minimum de l'UDC. Donc je constate qu'on a largement dépassé le socle minimum, on est proche du socle que le PLR et l'UDC font ensemble. Donc je crois que pendant 3 semaines, j'ai convaincu et j'ai réussi à convaincre une majorité d'électeurs, en tout cas PLR-UDC, que j'étais pas l'horrible blochérien qu'on a bien voulu écrire sur certains papillons ou même que certaines presses ont voulu marquer dans leurs journaux.
Donc vous êtes content de ce premier tour, de votre résultat, 40,3%?
Oui, personnellement, c'était un socle de 40% que je m'étais quand même visé en me disant qu'en dessous, c'est vrai que ça aurait été très très compliqué. On aurait commencé à chercher des poux dans les cheveux de son partenaire. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a fait l'effort. Mais il y a encore un effort à faire, comme Mme Hasler dit, c'est d'aller convaincre dans le terrain les gens d'aller voter, parce qu'à 30%, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Donc je suis assez content par contre dans ma commune qu'on dépasse les 40% aussi de votants. Donc on voit que quand il y a un candidat local, les gens se déplacent. C'est à moi d'aller montrer que je ne suis pas que le local du Chablais, mais que je suis le local de tout le canton.
Ouais, Béatrice Metro, vous arrivez 4,5 points au-dessus de M. Rapin environ. Comment vous analysez votre résultat ? Vous êtes contente, satisfaite aussi ?
D'abord, je suis extrêmement satisfaite de ce résultat, puis je suis aussi émue et je tiens à remercier toutes les électeurs et électrices d'avoir soutenu cette candidature. Bon, moi, je note que l'alliance de droite n'a pas entièrement fonctionné. En revanche, l'alliance chez nous, ça a bien marché. Alors, on a encore une marge de progression. Vous l'avez relevé vous-même, hein. Plus de 30% de participation, c'est quand même pas très, très élevé. Il y a encore une possibilité dans les villes. La ville d'Yverdon, par exemple, a 29% de participation. Donc nous, on a encore une marge de progression dans les villes, qui sont des villes à gauche. Et puis, il y a bien sûr la campagne. Dans le Gros-de-Vaud, j'ai 27 voix d'écart avec Monsieur Rapa. Et le Gros-de-Vaud est un district rural.
C'est votre
rural.
District,
c'est mon district, mais 27 voix, c'est rien pour un district rural UDC. Et je étonnant, félicite ma commune où, là aussi, j'étais en tête.
Voilà, chacun féliciter sa commune. Voilà. Béatrice Metro, c'est assez amusant de voir que dans les villes, vous êtes en tête largement. Lausanne vous donne plus de 5000 voix d'avance, 5800, quelque chose comme ça. Bon, vous n'êtes pas vraiment urbaine, vous, hein, votre parti peut-être plus, mais vous êtes la syndic de Botan. Dans toutes les régions, dans tous les districts campagnards, c'est Pierre-Yves Rapin qui arrive en tête.
Oui, alors effectivement, je ne suis pas urbaine. Moi, je suis plutôt campagnarde. Mais les villes ont voté pour un projet. Les villes ont voté pour des idées. Les villes ont voté parce que...
Par la campagne.
Mais la campagne, elle est attachée aux traditions, elle était attachée à Jean-Claude Mermoud et je pense que c'est ça qui a fait la difficulté de cette élection, ce sont bien les circonstances. Mais je ne désespère pas de rallier encore des voix à la campagne.
Pierre-Yves Rapin, alors vous, ça sera les villes, hein, on en discutera peut-être, il faudra peut-être vous concentrer là-dessus parce que c'est là que vous avez clairement du retard. Vous avez entendu les différentes analyses qu'on a faites sur les élections fédérales. Il y a un point commun, d'abord il y a le parti, le vôtre, et puis il y a cette difficulté d'accéder aux exécutifs parce que voilà, il faut rassembler, il faut réussir à prendre les voix de l'UDC et celles d'autres électeurs de droite. C'est manifestement pas le cas encore complètement aujourd'hui. Ça vaut encore vraiment la peine d'aller à ce deuxième tour? Vous pensez que vous arriverez à faire votre retard?
Oui, écoutez, moi, je reste optimiste de nature, donc je reste très optimiste là-dessus. On voit que quand on fait des alliances, elles fonctionnent à la perfection, eh ben, on arrive à rentrer quand même. Il faut peut-être simplement que nos partenaires se rendent compte qu'on n'est n'est plus le parti qui devrait redescendre en dessous des 15%, qu'on est un parti qui représente les 50% du centre-droite, et puis qu'on doit tous unis passer le cap. Dans ma commune, on l'a fait les apparentements, on a réussi à rentrer dans les exécutifs, donc au niveau cantonal, on doit aussi, et je crois que, contrairement à Mme Métro, je dirais que le peuple vaudois veut une continuité, il veut une concordance, il veut des proportions aussi. Et je crois que l'UDC, qui est représenté depuis plus de 40 ans au gouvernement, mérite ce siège au gouvernement. Et puis, j'entends, c'est quand même un gouvernement centre-droite, avec une majorité donc centre-droite, qui a amené le canton dans la situation financière qu'il est actuellement. Et ce n'est pas, en tout cas, des majorités de gauche, comme on trouve dans les villes d'Yverdon-Lausanne, qui auraient permis au canton de passer les années difficiles auxquelles on va, avec des finances qui, comme je le dis, donc au niveau cantonal, sont saines. Mais c'est en tout cas pas avec une majorité de gauche qu'on ira dans un canton avec des finances saines dans le futur. On se retrouvera plutôt comme la Grèce dans une vingtaine d'années si on a un basculement à gauche. Et je crois que ça, c'est un choix de société que la population vaudoise doit se rendre compte.
Béatrice Métro, vous allez précipiter les finances cantonales?
Alors moi, je crois pas. Moi, je voudrais simplement rappeler que M. Pierre-Yves Maillard et Mme Lyon et M. Martaler gèrent à eux seuls plus de 75% du budget du canton, et qu'il présente année après année des budgets équilibrés et des finances durables. Donc je ne pense pas que ces trois conseillers d'État veulent absolument précipiter le canton dans une catastrophe financière. Ils l'ont prouvé. L'équilibre financier du canton, c'est le résultat d'un équilibre au sein du Conseil d'État. Et puis moi, j'aimerais aussi dire qu'il faut absolument dépassionner ce débat à gauche-droite. Le vrai débat, il aura lieu en 2012, pour les élections de mars 2012.
Oui, mais il faut quand même bien passionner les gens pour cette élection. On l'a vu que c'est pas facile. 31% de participation, c'est faible. Deuxième tour 18 décembre, il y aura un peu les fêtes de Noël dans tous les esprits. On s'imagine pas vraiment un score nettement meilleur. Il faut un petit peu...
Alors,
qu'est-ce
pour
qu'il
passionner
faut faire
les gens,
pour passionner les gens?
Alors, pour passionner les gens, bien sûr, on devra de nouveau être présent sur les marchés, faire des débats, mais je rends aussi la population attentive à une chose. Monsieur Pierre-Yves Maillard sera peut-être élu conseiller fédéral le 14 décembre. Donc si je viens au Conseil d'État, je préserverai l'équilibre. Et comme je le fais actuellement dans ma municipalité, je préserverai la collégialité, l'équilibre, et ce ne sera en tout cas pas la révolution.
Pierre-Yves n'ira pas. Il va falloir mobiliser à la fois vos troupes, mais tous les électeurs. Ça ne va pas être facile, vous l'avez dit au début.
Non, ça c'est clair qu'il faut en effet, il faut coordonner d'autres personnes dans l'ensemble du canton pour mobiliser les gens et pour les convaincre que s'ils font basculer à gauche et qu'ils mettent deux verts au gouvernement, donc deux verts qui sont moins représentés au Parlement que l'UDC, ils font un choix de société clairement d'aller dans la même direction que la ville de Lausanne, je le répète. Et on constate que la droite, quand elle a une minorité qui est la gauche actuellement au gouvernement, la respecte. C'est des budgets qui ont été votés, Madame la députée, par 7 conseillers d'État. Donc même si M. Maillard et Mme Lyon possèdent en effet dans leur département une grande part des dépenses de l'État, c'est néanmoins à 7 conseillers d'État que ça a été voté. Et on constate simplement qu'à Lausanne, une fois que la majorité passe de l'autre côté, on oublie nettement les minorités de droite. Et puis ça ne nous gêne pas, à gauche, de carrément dépenser l'argent public, même l'argent qu'on n'a pas, et de faire des dettes qui sont absolument faramineuses.
Il n'y arrivera pas, c'est dans les villes que vous allez devoir rapêcher un certain nombre d'électeurs. Vous n'êtes pas en train de séduire ceux qui votent en général à gauche dans les villes?
Écoutez, dans les villes, on fait 25-30%. J'entends dans les villes, les gens doivent se rendre compte, et je suis sûr qu'ils s'en rendent compte. Et ceux qui votent pour nous, d'ailleurs, c'est justement cette minorité qui est dans les villes, qui comprend qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette situation. Mais on doit surtout aussi pas oublier que le canton de Vaud est un immense canton qui demande des infrastructures dans l'ensemble de son canton. Que ce soit le pied du Jura, la vallée de Joux, que ce soit la Broye, que ce soit le Chablais. Et je crois que ces gens-là aussi doivent se mobiliser pour se rendre compte que tous unis, on peut faire aussi le contrepoids des villes et que les villes ne vont pas décider, j'entends, l'avenir du canton. J'espère bien que les citoyens vaudoises et vaudois vont se rendre compte que s'ils ne font rien, eh ben, l'ensemble du canton tombera dans une majorité de gauche et on aura la situation de Lausanne, de la Grèce, de Yverdon. On se constate depuis que la gauche a repris la majorité, quand même, on reprend un ascenseur au niveau des dettes. Alors, si c'est ce que la population vaudoise veut, eh ben, qu'elle fasse son choix au mois de décembre, il faudra qu'elle l'assume de 15-20 ans quand on aura des dettes qu'on devra remettre à nos générations futures qui seront absolument catastrophiques.
Alors, le mot de la fin pour Béatrice.
Alors, moi, j'aime bien le diable sur la muraille peint par M. Rapa. Je note que les villes de Morges, d'Yverdon présentent des budgets équilibrés. Je voudrais surtout dire que la ville de Lausanne, qui est en rééquilibrage de ses finances, a quand même offre à la population tout un tas d'infrastructures, entre autres des crèches et autres, qu'il n'y a pas dans les campagnes. Et il appartient
aussi,
aux
Mme
villes.
Métro, qu'elle est hors la loi au niveau des finances, de leurs déchets.
Il appartient aux villes. je redis donc, il appartient aux villes d'offrir des infrastructures à l'ensemble de la population vaudoise. Voilà pourquoi il y a tant d'investissements dans les grandes villes.
Voilà une amorce de débat pour votre deuxième tour apparemment. Aujourd'hui, on attend encore évidemment Emmanuel Jetin, Vaulibre, qui a fait 10% aujourd'hui. Sera-t-il candidat ou pas? Il le dira apparemment ces prochains jours, probablement demain. Merci beaucoup Béatrice Métro, merci Pierre Vrapa d'avoir été avec nous quelques instants. Et contrairement aux Genevois qui ont refusé aujourd'hui le salaire minimum, les Neuchâtelois y auront droit. Les citoyens ont accepté à 55% d'inscrire ce principe dans la Constitution. Anouk-Henri, il s'agit d'un principe général dont il faudra aujourd'hui débattre des modalités.
En effet, car l'article qui a été accepté prévoit uniquement l'idée d'un salaire minimum sans en fixer le montant. Et ce montant, c'est le véritable enjeu sur lequel les partis devront aujourd'hui s'accorder, car les écarts sont énormes. La gauche réclame 4000 francs par mois. Pour la droite, la loi empêche de fixer un salaire supérieur à 2400 francs, soit à peine plus que les montants de l'aide sociale. Un argument qui fait craindre que cela ne tire les salaires actuels vers le bas. Autre crainte de la part des milieux économiques, que les entreprises actives dans l'industrie délocalisent et étouffé par l'augmentation de la masse salariale.
Pourtant, aujourd'hui, le peuple a choisi de suivre l'avis du Parlement.
Oui, ce printemps, ce sont les députés qui avaient accepté l'introduction du salaire minimum afin de garantir des conditions de vie décentes à tous les citoyens. Différence importante avec Genève qui votait aujourd'hui également sur le salaire minimum. Vous l'avez dit, les Genevois qui ont rejeté une initiative qui avait été initialement refusée par le Parlement. À Neuchâtel, la mise en application de la décision d'aujourd'hui va susciter des remous. Le canton du Jura, par exemple, n'a toujours pas mis en pratique le principe du salaire minimum qui figure pourtant dans sa constitution. Au plan fédéral, l'Union syndicale suisse a lancé une initiative qui demande un salaire d'au moins 4000 francs par mois. L'issue de ce scrutin fédéral aura certainement des conséquences importantes sur la mise en application du salaire minimum neuchâtelois.
Anouk-Henri en direct de notre studio de Neuchâtel et à vos côtés, Sylvia Locatelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente du Parti Socialiste Neuchâtelois, secrétaire syndicale également à UNIA. Alors, j'imagine que vous êtes contente ce soir, hein, les Neuchâtelois ont accepté ce principe. Genève pas, par contre, dans les proportions inverses, comment vous expliquez?
Alors, comme l'a dit Madame Henri, effectivement, la situation neuchâteloise était passablement différente de la situation genevoise. Tout d'abord, le Grand Conseil neuchâtelois avait soutenu ce principe. Donc, il y avait déjà une plus large cohésion pour soutenir ce principe d'introduction dans la Constitution. Il y a aussi peut-être des niveaux de salaire qui sont différents. Et en plus, il y a tout le cas aussi de l'arrêté du tribunal fédéral qui précisément portait sur la loi genevoise, ce qui n'était pas le cas pour Neuchâtel. Donc, j'imagine que ça aussi, ça a plus touché les Genevois dans les craintes qu'ils pouvaient avoir face à ce salaire minimum.
Alors, Sylvia Locatelli, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en pratique quelque part, mettre dans la loi ce principe de salaire minimum qui a été accepté aujourd'hui. Il n'y a pas de risque qu'on reste dans le cas du Jura. Donc, Henri l'a dit, hein, dans le Jura, ça y est depuis belle lurette, mais il n'y a pas de loi.
Alors on fera en sorte qu'on ne reste pas dans le cas du Jura, même si aujourd'hui une loi existe, hein, seulement elle doit être encore examinée, sauf erreur. Mais ce qu'on va faire tout d'abord, dans les étapes successives qui vont arriver aujourd'hui, c'est qu'on va attendre qu'on fasse la votation au niveau fédéral, hein, puisque l'initiative fédérale dont vous avez parlé tout à l'heure est en passe d'être déposée, donc il y aura une votation qui se fera. Si cette votation passe, ce que nous souhaitons et pour laquelle nous nous battrons évidemment, eh bien il y aura ces 4000 francs qui seront inscrits. À ce moment-là, le problème sera réglé. Si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, nous devrons revenir ici dans le canton de Neuchâtel pour pouvoir faire cette fameuse loi d'application. Sauf si le Conseil d'État décide de le faire avant, mais tant qu'il est de majorité de droite, je doute qu'il soit très pressé de le faire.
Oui, précisément, parce que vous demandez, comme le demande l'initiative fédérale, 4000 francs. Hein, selon la droite, par contre, on ne peut pas aller au-delà de 2400. On imagine mal que vous alliez vous mettre d'accord entre la gauche et la droite sur ce montant.
On n'arrivera peut-être pas à se mettre d'accord, mais si la majorité du Grand Conseil est encore celle qu'elle est, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Par contre, effectivement, il y a cet argument-là qui tient à cet arrêt du tribunal fédéral, qui ne tranche pas la question, mais qui dit effectivement qu'il pourrait être difficile d'appliquer un salaire minimum qui serait au-delà des minima sociaux dans les cantons, pas au niveau fédéral, mais dans les cantons, parce que cela serait une entrave à la liberté économique. Et nous estimons que le bien-être des salariés, le fait qu'ils puissent vivre de leur salaire, eh bien, ça va bien au-delà qu'une entrave à la liberté économique.
Sylvia Locatelli, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est en fin de compte, les citoyens de Neuchâtelois qui ont voté aujourd'hui sont peut-être contents, ceux qui ont voté pour, ils vont devoir attendre un moment parce que vous venez de nous dire, on va attendre au niveau fédéral une initiative, elle n'a pas encore formellement abouti, même si il me semble que le nombre de signatures soit récolté, et puis ensuite peut-être une autre majorité, si ça revient du côté de Neuchâtel, ça va prendre encore des années.
Des années, je ne pense pas. Ils vont devoir attendre un petit moment, ça c'est clair. Bon, de toute façon, l'initiative, elle est en passe hein, d'aboutir. Donc, j'imagine que ça va aller quand même relativement vite. Et si vraiment ça venait à capoter au niveau fédéral, eh bien, on s'engage, si le Conseil d'État ne met pas l'ouvrage sur le métier, au niveau du Grand Conseil, à établir quelque chose pour qu'on propose une loi d'application qui soit gérable ici au niveau de Neuchâtelois.
Une des craintes, ça sera ma dernière question, une des craintes, c'est qu'au fin de compte, ça soit pervers, on tire les salaires vers le bas. C'est un risque ?
Alors, non, c'est pas un risque parce que ce qu'on a inscrit aujourd'hui dans la Constitution prévoit également de tenir compte des branches et des conventions collectives de travail. Donc tout ce qui existe aujourd'hui à ce niveau-là ne risque pas d'être tiré contre le bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le canton de Neuchâtel, il y a aujourd'hui 10% des salariés qui gagnent moins que 4000 francs. Donc il y a déjà 90% des entreprises qui jouent le jeu. Donc on va pas tirer l'ensemble contre le bas. Ça, c'est vraiment un argument, on va dire, épouvantail pour ne pas voter le salaire minimum.
Sylvia Locatelli, vice-présidente du Parti socialiste neuchâtelois, secrétaire syndicale à Unia. Merci d'avoir été avec nous quelques instants.
Merci.
Et à 18h30 sur la première dans ce forum, c'est l'heure du journal des sports présenté par vous, Pascal Turner. Et en football, les derniers matchs des huitièmes de finale de la Coupe Suisse ont été pénibles pour les clubs de l'élite.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 5 rencontres opposaient aujourd'hui des clubs de Challenge League à des clubs de Super League. Et Servette s'est fait sortir sans gloire par Bienne qui s'est imposé 3-0 grâce à des buts de Salaï, Matisse et Morello. Maigre consolation peut-être pour les Servettiens. Le FC Zurich a lui aussi été éliminé à Saint-Gall 4-2, tout comme Young Boys battu au tir au but à Winterthur. Et puis Grasshopper a eu besoin des tirs au but pour l'emporter à Kriens. Et puis Lucerne s'est imposé difficilement à Wollen 2-1. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce soir. Des quarts de finale qui se disputeront le 21 mars. Et puis en Challenge League, Stade Nyonnais a battu Delémont 1-0. Là c'était une rencontre de championnat. Les Nyonnais passent au-dessus de la barre grâce à cette victoire. Ils se retrouvent 8e.
Et puis Roger Federer et Jo Wilfried Tsonga sont entrés sur le court de l'eau. De Arena de Londres.
Oui, la finale du Masters de tennis doit débuter dans quelques minutes entre deux joueurs qui partagent un point commun, Hervé Borsier. Ils sont tous les deux très populaires.
Ah oui, ici, il faut voir à l'Arena de Londres leur popularité. On le sait, Roger Federer est très populaire à Londres, hein, évidemment, avec ses titres à Wimbledon et ici même au Masters. Mais Jo Wilfried Tsonga aussi, on aime son jeu, on aime son attitude, bien entendu. Jo Wilfried Tsonga, eh bien, qui dispute sa première finale des Masters, mais qui va rencontrer Roger Federer pour la troisième fois en 3 dimanches. Et il a appris à la longue, en tous les cas, à se préparer quelque peu différemment, écoutez-le.
Arrivé aussi chaud que mes 2 derniers matchs, enfin mes 3 derniers matchs même, parce que le premier jour quand j'ai joué à Roger, je m'étais senti pas assez chaud sur le terrain. Après j'avais changé des choses et ça m'a permis de rentrer un peu plus chaud dans mes matchs. Ça va être rentrer un peu plus chaud et être encore un peu plus agressif sur les jeux de retour. Je réalise bien que c'est le dernier match de l'année surtout, mais je suis quand même assez content. Je suis content de me retrouver là en finale, mais je suis aussi content de me dire que c'est le dernier et que je peux tout donner sur celui-là et qu'on ne me dira pas demain il faut que tu retournes à l'échauffement ou demain il faut que tu retournes faire des étirements, ou demain t'as pas le droit de manger un petit carré de chocolat, ou demain t'as pas le droit de... Voilà, donc ça fait plaisir et quoi qu'il arrive dans ce match, je vais tout donner. Ouais.
Jo Wilfried Tsonga qui va faire dans quelques instants son entrée ici dans l'aréna et 16 500 spectateurs l'applaudissent. Il rentre actuellement et ce sera après au tour de Roger Federer. Je vous rappelle, Roger Federer a l'expérience. C'est sa 100e finale ici. Quant à Jo Wilfried Tsonga, c'est la 2e fois qu'il vit un événement comme celui-ci. On se souvient qu'il avait fait disputer en tout cas la finale de l'Australian Open.
Merci Hervé. Nous vous retrouverons évidemment tout au long de cette soirée dans nos rendez-vous d'information. Une finale du Masters de tennis qui est également diffusée en direct sur TSR2.
Et du tennis, on passe au ski avec le Super G de Lake Louise. Pourra-t-il se courir ce soir? C'est la question parce qu'il vente et il neige dans la station canadienne.
Effectivement, le départ de la course est prévu dans un peu plus dans une petite demi-heure, hein, 19h heure suisse. Et 24 heures après la victoire de Didier Cuche devant Beat Feuth dans la descente hier, on imagine que les Suisses aimeraient bien que la compétition ait lieu, Patrick Delétro.
Oui, effectivement, même s'ils ne sont pas forcément les favoris aujourd'hui, bien qu'il soit assez difficile de dégager des favoris, car vous l'avez dit, il y a du vent sur l'eau du parcours, si bien que le départ a été abaissé au niveau du départ du Super G des Dames, donc une course raccourcie. Il neige, effectivement, il neigeotte pour l'instant ici à Lake Louise. La température a sérieusement augmenté, on est aux alentours des 0 degrés, donc une course assez difficile avec peu de visibilité. Des hommes d'expérience seront devant, ça c'est certain. Les petits numéros ne seront pas avantagés, donc une course tout à fait correcte. Hein. On est en extérieur et c'est l'hiver, donc forcément des conditions difficiles, mais une course qui va pouvoir se courir aujourd'hui ici à Lake Louise. En plus, renvoyer une course déjà en début de saison serait extrêmement compliqué parce que le calendrier est très serré. Mais donc départ comme prévu tout à l'heure à 19h de ce Super G de Lake Louise.
Merci Patrick, on vous retrouve évidemment dans nos informations de la soirée. Puis les dames disputent en ce moment un slalom à Aspen dans le Colorado. La première manche vient de partir. La deuxième aura lieu à 21h. Dario Colonia est en forme. Le fondeur grison, champion olympique du 15 km, est le seul à avoir réussi à suivre aujourd'hui Peter Northug à Kuusamo en Finlande sur un 15 km. Les deux meilleurs fondeurs du monde se sont livrés un duel que le Norvégien a finalement remporté au sprint. Chez les dames, victoire norvégienne également pour l'invincible Martin Bjørgen. Et puis le Grand Prix du Brésil de Formule 1 approche de son terme. À un tour de l'arrivée, Mark Webber est en tête. L'Australien mène la course sur les circuits d'Interlagos devant son coéquipier de l'écurie Red Bull, Sébastien Vettel, le pilote allemand qui est déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde des pilotes. Quant au vaudois Sébastien Bumi, il est actuellement à la 12e place.
Et c'était le journal des sports de Pascal Turner à 18h35 sur la première. On va vous retrouver, Nathalie Ducommun, à Genève, en direct du bâtiment des forces motrices où vient de se terminer la conférence mondiale du CICR.
Oui, effectivement, merci Laurent. Les 500 invités participants à ce grand rassemblement organisé par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont maintenant dans le hall de ce bâtiment des forces motrices, absolument magnifique ici. Ils sont en train de débattre évidemment de ce qu'ils ont entendu, certainement. Les 8 conférenciers et conférencières ont quitté également la salle. Il y a des politiques, il y a des experts, il y a des acteurs de l'humanitaire, des journalistes, des étudiants, il y a des penseurs évidemment, des penseurs en tout genre. Ils échangent. On va bien sûr nous aussi en apprendre un peu plus sur ces idées novatrices pour l'humanitaire de demain. Alors, le dialogue avec tous les acteurs de la société, pas seulement entre les États, ça c'est une idée qui persiste, qui prend de l'ampleur. Elle a été développée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères norvégien. Et on a pu l'interroger justement, juste avant qu'il monte sur scène. Jonas Gahr Støre, il est victime lui-même du terrorisme, victime des talibans. C'était à Kaboul en 2008, un journaliste norvégien qui l'accompagnait avait d'ailleurs perdu la vie. Et puis, il est également le survivant d'une toute autre forme de terrorisme. Chez lui, dans son propre pays, cette paisible Norvège, Andres Behring Breivik avait nommé le ministre comme une cible à abattre. Le témoignage, donc, de Jonas Gahr Støre. Bon, on a commencé avec la comparaison entre la Norvège et la Suisse, puisque ce sont deux pays engagés de façon assez similaire sur le front de l'humanitaire. D'ailleurs, sont-ils parfois concurrents, nos deux pays, sur ce terrain? C'était ma première question.
Ce n'est pas du tout mon sentiment. J'ai le sentiment qu'on est complémentaires, on se connaît bien, on est en bonne communication. Et il y a assez de choses à faire pour tout le monde, effectivement. Le problème dans ce monde, ce n'est pas qu'il y a trop de pays qui veulent s'engager au niveau humanitaire, il y a trop peu. Alors la Norvège et la Suisse, on a des expériences un peu différentes, on a des compétences un peu différentes, mais on peut bien travailler chacun pour soi et bien travailler ensemble.
Alors, monsieur le ministre, notre ministre des Affaires étrangères, Micheline Calmiret, qui est d'ailleurs socialiste comme vous, il y a quelques années a choqué une partie de la diplomatie suisse en disant devant des ambassadeurs qu'il fallait parler avec tout le monde et qu'il fallait même parler avec Ben Laden. Évidemment, il n'était pas mort à l'époque. Vous êtes plutôt d'accord avec elle. C'est un peu l'idée que vous êtes venu véhiculer aujourd'hui.
Oui, d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour le ministre suisse parce que je pense qu'elle est courageuse et elle a démontré jusqu'à maintenant qu'elle peut faire des grandes choses avec ce courage et avec un travail très systématique. Oui, mon principe, c'est aussi qu'il faut parler. Je ne dirais pas qu'il faut parler avec tout le monde tout le temps. Il faut parler, il faut savoir quand il faut arrêter de parler, il faut aussi savoir quand il faut s'en aller. Mais je trouve qu'un des déficits les plus sérieux qu'on a dans ce monde contemporain, c'est le manque de communication. Donc on est lié, on est connected un peu partout, mais la qualité des communications pour comprendre ce qui se passe dans ce monde. On est maintenant témoin d'une révolution dans le monde arabe qui va d'en bas, avec une mobilisation sociale. Et les diplomates, normalement, ne sont pas branchés à ces forces qui bougent ce monde contemporain. Donc, l'idée dans la diplomatie qui consiste à dire on ne va pas parler à ceux qui nous opposent est une fausse idée, à mon avis. C'est précisément dans les contextes où on n'est pas d'accord qu'il faut avoir un dialogue pour comprendre, pas forcément pour se mettre d'accord, parce que c'est difficile, mais si on veut comprendre les forces qui déterminent notre futur, il faut parler pour communiquer, passer des messages, mais aussi pour mieux comprendre. Surtout dans un temps où les États ne sont pas les seuls acteurs sur la scène internationale. Il y a aussi cette définition obscure qu'on appelle les groupes, qui sont sociaux, religieux, politiques, et qui sont aussi des acteurs très, très importants. Et là, je pense que les diplomates sont simplement en retard.
Parce que c'est vrai que dans un monde globalisé, comme vous dites, qui est très lié, on pense évidemment à Internet, qui est une révolution incroyable et qui conditionne, comme vous dites, les printemps arabes, c'est l'exemple type. N'empêche que la communication, paradoxalement, est devenue plus difficile. Comment faire? Je pense à la Norvège, notamment. Vous avez vécu ce drame cet été, l'affaire Breivik. La Norvège, l'État n'a pas senti qu'il y avait peut-être là quelque chose à comprendre dans la population, dans un groupuscule qui pouvait être dangereux. On n'a pas pu rentrer en communication avec cette réalité-là, vous pensez?
Je pense qu'on a découvert quelque chose de très troublant. Et il faut plus d'études pour bien comprendre ce qui s'est passé. Alors, on attend maintenant le procès, mais c'est quelque chose aussi lié à l'Internet, des groupes qui opèrent dans une isolation et avec un contact qu'on ne comprend pas complètement. Mm-hmm. Moi, je pense que le peuple norvégien a réagi avec un certain modestie, avec une sang-froid, ne pas se laisser bouleversé par cet événement choquant. Il faut comprendre ce qui a motivé un individu qui apparemment était seul de faire une telle chose, mais pas tirer des conclusions avant qu'on sache plus. Sur le niveau, comme vous dites, prenant en compte la globalisation, je pense que il n'est pas surprenant que la diplomatie prend un peu de retard à ce développement, parce que la diplomatie, c'est un art ancien qui est spécialisé en taclant les relations entre États, et il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choses à faire, mais qui a peut-être échappé un peu à comprendre ses forces sociaux.
C'est ça le grand enjeu. J'aimerais revenir évidemment à cette notion de dialogue, même avec des forces qui sont très menaçantes pour nos valeurs. J'évoquais le terrorisme parce que vous, ministre des Affaires norvégienne, vous avez vécu le terrorisme. On vient de mentionner évidemment chez vous le cas Breivik, qui est tout à fait important aussi vous concernant, parce qu'il visait des jeunes socialistes. Il a dit qu'il vous visait vous aussi, il l'a dit nommément. Vous avez également vécu cette violence à Kaboul en 2008. Vous étiez avec une délégation norvégienne, il y a eu un attentat. Quand on a été personnellement touché par cette violence, comment est-ce qu'on arrive à se dire « oui, il faut quand même rester dans le dialogue, oui, il ne faut pas se fermer, oui, il ne faut pas tomber dans la haine ». Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez vécu cela?
Vous avez raison, c'est un drame, pour moi aussi un drame personnel cet été et il y a 4 ans. Mais il faut, quand on est ministre, il faut essayer de distinguer entre les deux. Parce que moi, je suis convaincu qu'en Afghanistan, par exemple, il est juste d'être en Afghanistan avec une présence militaire. Mais le militaire ne va pas résoudre le problème, le drame afghan. Là, il faut une solution politique. Et pour qu'il y ait une solution politique, il faut qu'il y ait un processus politique. Et pour qu'il y ait un processus politique, il faut que ça soit inclusif. Et que ça vise toutes les forces sociales réelles de ce pays. Et là, je pense qu'on a mal fait depuis 2001. On a exclu, ou les Afghans, et la communauté internationale a exclu certaines parties de cette société. Et avec cette approche, on n'aura pas la paix. Il est bien difficile de dialoguer et de parler avec ceux qui menacent nos valeurs. Et moi, je dis, il ne faut pas toujours parler. Il faut savoir quand il faut s'en aller. Il ne faut pas exclure d'utiliser la force militaire. Mais moi, je pense que dans la boîte d'outils diplomatiques qu'on a, il faut mieux faire sur ce chemin de dialogue, aussi chez nous, Regardons la Suisse, la Norvège, qui sont des sociétés maintenant plus pluralistes. Dans cet âge de migration, on a une population plus diverse. Comment est-ce qu'on va résoudre les défis devant nous si on ne va pas faire plus d'excellence dans cet art de communication? En Égypte, quand on parle avec les frères musulmans pour les convaincre de mieux respecter les minorités, comment est-ce qu'on peut faire ça si on ne veut pas parler avec la majorité? Alors ce genre de questions risquent de laisser l'Occident accusé de double standard. Ils ont raison.
Yannis Gerster, pour conclure, jamais vous ne vous êtes dit « c'est tellement immense qu'il y a à faire, j'ai tellement souffert du terrorisme, de la violence, j'arrête la politique, il faut que le combat est ailleurs, je me retire, c'est trop ».
Je dirais plutôt le contraire, parce que j'ai eu cette fonction depuis 2005, et je suis convaincu, les expériences que j'ai faites, ce que j'ai vu, je pense que j'ai compris, il faut tourner la carte un peu pour voir que le dialogue, ce n'est pas une force, un signe de faiblesse. Et pour moi, c'est un peu Mandela qui est l'exemple, parce que lui, il aurait pu choisir la lutte, et tout le monde l'aurait soutenu. Alors, il a fait le contraire. Il a dit, je vais dialoguer avec mon opposant, il a tout gagné. Donc, il a des exemples qu'il vaut se laisser inspirer par ces exemples. Mais un jour, ça sera le fin de mon carrière politique. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bonne cause qu'il vaut bien défendre.
Voilà, c'était Jonas Garstor, le ministre des Affaires étrangères norvégienne. Il est 18h45, on est en direct dans ce bâtiment des forces motrices avec nos invités. D'abord, Bruno Diociani, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de ce que c'est qu'exactement cette formule incroyable de TEDxRC², qui n'est pas forcément la plus digeste au premier son. Vous êtes le directeur européen de ces conférences, TED. C'est quelque chose d'énormes, Ted. C'est de l'événementiel à échelle mondiale. Expliquez-nous exactement ce que c'est.
C'est une fondation à but non lucratif dont le but est d'essayer d'identifier de bonnes idées, des gens avec de bonnes idées et les aider à les diffuser, à les partager. Donc on utilise la formule de conférence, le web, toute une série d'autres plateformes, les applications iPad, iPhone, etc. Pour ce but, pour simplement diffuser les idées et faciliter une grande conversation sur qui nous sommes et notre futur.
Alors comment on les trouve, ces bonnes idées?
On les trouve de la façon dont vous, à la radio, ou vos collègues dans les journaux, trouvent les bonnes idées pour des articles. Donc on fait des recherches, on parle avec des gens, on travaille, on voyage, etc. Et on essaie d'identifier des gens qui sont vraiment à l'avant-garde dans leur secteur ou qui ont une expérience exceptionnelle et unique à partager.
Alors, ce TED-ci, ce TED-RC-carré, TEDx, il est consacré à l'humanitaire, oui. Des grandes idées sur l'humanitaire. Évidemment, c'est un thème tout à fait louable. On imagine qu'il y a des idées absolument très vertueuses, très belles, très positives. Elle sert à quoi, au fond? D'avoir juste les idées en tant que telles, ça sert à quoi?
Oui, il y a ce concept qu'une idée ne sert à rien sauf si elle est implémentée, n'est-ce pas? La réalité, c'est que les idées sont vraiment celles qui font avancer le monde et le progrès. Si on regarde l'histoire du progrès humain, on se dit, oui, il y a les grands génies isolés à la Léonard de Vinci, à la Mozart, mais la réalité, c'est que le progrès a été déterminé par la rencontre d'idées, par nos ancêtres, de vous et de moi, qui se sont rencontrés et qui ont partagé une idée, et de ce partage est née une idée meilleure qui a fait avancer les choses. Donc quelque part, ça fait partie d'une grande conversation, d'une grande expérimentation sociale de laquelle nous faisons partie tous, et qui est de répondre à la question: où est-ce que nous allons? Quelle est la prochaine étape? Et ces idées participent de ce mouvement.
Et puis alors après, il faut qu'elles soient entendues, évidemment, pour les Absolument. Concrétiser. Alors là, vous aviez un parterre assez prestigieux de politiques, oui, des ministres, des députés. Et ils sont faciles à convaincre, les politiques?
Ils ne sont pas nécessairement faciles, mais ils peuvent être inspirés par des choses qui les surprennent et qui répondent à un besoin qu'ils ont. Je vous donne un exemple qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est d'une conférence récente que nous avons eue. Il y a environ une année et demie, un économiste de l'Université de Stanford est venu à l'une de nos conférences. Il a mis sur la table un projet très ambitieux, très iconoclaste de développement économique dans les pays du Sud. Par le biais d'un consultant américain, cette vidéo, la vidéo de son speech, est arrivée sur la table du président de l'Honduras, qui, dans les 6 derniers mois, a redéfini la politique de développement du pays sur la base des conseils de cet économiste. Donc là, c'est une idée qui est partie d'une scène, d'un théâtre comme celui-ci, et qui est arrivée dans le bureau d'un président qui est en train de faire quelque chose.
Effectivement, exemple tout à fait concret. On a eu un des conférenciers, il y en avait 8 aujourd'hui sur l'humanitaire. On l'a entendu, le Premier ministre norvégien, ministre des Affaires étrangères, qui est lui dans cette idée de rendre attentive la diplomatie, à ce qu'elle communique plus avec aussi les citoyens et d'autres acteurs. Et puis un autre conférencier qui nous a rejoint, c'est vous, Patrick Chapat, bonsoir.
Bonsoir.
Un dessinateur sur la scène de l'humanitaire.
Oui, c'est bizarre.
C'est bizarre.
D'abord, c'est qui ce Ted ? On n'arrête pas de parler de Ted. Moi, je ne l'ai toujours pas rencontré, moi.
Pourtant, il est grand, hein, monsieur Giussiani. C'est difficile de le rater.
Technology Entertainment Design,
oui,
c'est ça.
Ça, voilà. Ça c'est dans le nom, mais plus personne s'en souvient.
Mais vous posez la bonne question, qu'est-ce que je fais ici ? Et c'était un peu c'était la première question que j'ai soulevée dans ma présentation, parce que a priori, on est dans deux mondes assez différents. Le monde de l'humanitaire, qui est quand même un monde où on se bat pour les victimes, et tout est très positif, le message à faire passer est positif. Et puis, un dessinateur de presse qui se complaît dans le cynisme. Alors, bon, vous savez que je suis schizophrène. Vous recevez un schizophrène à votre table parce que je mets de temps
en
temps
intéressant.
Des habits qui sont les habits du reporter dessinateur. Et là, j'agis différemment que comme dessinateur de presse, ce pourquoi les gens me connaissent plus. Et il y a quelques années, j'ai été approché par le CICR qui était intéressé en fait par le BD journalisme et par cette façon de communiquer. Parce qu'ils se sont dit finalement, c'est peut-être une manière d'intéresser les gens à des sujets auxquels on a de la peine à les intéresser, et c'est peut-être une manière de communiquer à plus de monde. Alors j'avoue qu'a priori j'étais un tout petit peu sceptique de ce
Pourquoi
mariage. Parce que, encore une fois, moi je veux garder ma marge de manœuvre, je ne me mets pas au service d'eux. Et je crois que le CICR, on a discuté, ça a pris quand même, je crois, une à deux ans pour qu'on s'y mette. Mais ils ont très bien compris qu'il fallait me laisser carte blanche. Par contre, on se retrouvait sur tel ou tel terrain sur lequel on avait envie de parler. J'ai présenté ce soir l'aboutissement de cette collaboration, qui était un film cette année, qui était un film basé sur...
La mort dans le champ de bataille.
La mort est dans le champ, qui se passe au sud Liban, et qui était un film basé sur un de ces reportages BD.
Un film magnifique d'ailleurs, hein. Je recommande à tout le monde d'aller regarder sur Internet, puisqu'il est diffusé.
Oui. On peut le voir sur bdreportage.com, au singulier,
ça c'est
si jamais. Il est passé à la télé en avril. Et alors, on pourrait se demander, il est passé à Mise au point en avril dernier, donc en prime time, le dimanche soir, dans un programme de news. Et c'est exactement ce que je voulais, moi. J'espérais ça. Donc, je suis très content que ça ait eu lieu.
Donc, vous êtes le diffuseur, Patrick Chapat. On a eu Bruno Giussiani qui nous dit, mais moi, je mets en scène, je fais rencontrer ces grandes idées. On se sensibilise à une question. Et puis, vous êtes un petit peu l'une des petites mains qui diffuse quelque chose.
Moi, je suis comme vous. Je travaille dans les médias. Et puis, là où l'humanitaire et les médias se rencontrent, c'est sur le besoin de trouver de nouvelles formes d'intéresser les gens. Et par exemple, ce film, La mort est dans le champ, qui se passe au sud Liban et qui parle des bombes à submunitions. Il passe un dimanche soir sur Mise au point, on se dit c'est formidable parce que c'est une forme différente, ça intéresse les gens. Mais en même temps, vous allez me dire, le sud Liban, c'est loin. Les bombes à submunitions, c'est très loin du téléspectateur suisse le dimanche soir. Eh bien, je vais vous dire non, c'est pas loin du tout, parce qu'on se rend compte, ça a eu lieu il y a quelques semaines en commission de sécurité au Conseil national. La Suisse qui a signé un traité d'interdiction sur les bombes à submunitions, elle doit le ratifier, le Parlement doit le ratifier. Normalement, ça doit se faire comme ça, c'est une simple procédure. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? La commission de sécurité a voté la non-entrée en matière. Donc on se rend compte tout d'un coup qu'en Suisse, chez nous, il y a un lobby de militaires et de l'UDC qui veulent pas qu'on renonce à ces bombes qui sont des armes cruelles, hein, qui sont des armes détestables. Donc vous voyez, finalement, le sud Liban et la Suisse se rejoignent et j'espère que le dessin peut aider à faire passer ce genre de choses.
De faire ce genre de lien. Alors vous êtes un de ces acteurs, effectivement, qu'on n'attend pas sur la scène de l'humanitaire. On voit bien la diplomatie, on voit bien le politique, on voit bien les experts, les organisations. Et puis un autre acteur aussi qu'on reçoit autour de la table de forum, c'est vous, Christian Frutiger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez les méchants, en quelque sorte. Je peux vous le dire comme ça. Vous êtes la multinationale Nestlé, souvent critiqué pour son comportement dans certains pays. En fait, Nestlé réfléchit à l'humanitaire et s'y associe au fond. Est-ce qu'on peut comparer un peu ce que vous faites, vous qui êtes aux affaires publiques de Nestlé Monde, et à une certaine échelle, ce que fait Patrick Chapat? Vous êtes aussi un espèce de diffuseur.
Non, on ne peut pas comparer Nestlé.
Il répond à votre place. Christian Frutiger.
Non, oui, on peut comparer dans la mesure que moi-même, je viens de l'humanitaire. J'ai passé 13 ans au CICR avant de passer chez Nestlé. Puis
C'est bien joué de la part de Nestlé, donc.
Ah, oui.
D'aller recruter la personne au CICR.
Vous leur poserez la question, mais je pense que ce qui est important, bon, pourquoi on est là ? D'abord, on a un partenariat avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge qu'on soutient. Puis quand ils nous ont demandé de, justement de venir participer à cet grand échange d'idées, on y a réfléchi un petit peu. Puis on s'est dit, oui, pourquoi pas. Et ça explique aussi, parce que vous voyez, moi j'ai passé du CICR à Nestlé pour une raison bien précise. C'est que, justement, les grandes compagnies, l'économie privée est souvent absente complètement de la discussion, autant dans l'humanitaire comme dans le développement. Alors qu'on est là, on est souvent sur place.
Et qu'est-ce que vous pouvez apporter, très concrètement, un exemple de ce que Nestlé peut apporter en termes d'engagement humanitaire ?
Alors, ce qu'on peut apporter sur place, on a 450 usines, je crois, sur un peu partout dans le monde, la moitié dans les pays en voie de développement. Donc, quand il y a une catastrophe naturelle, style Haïti, par exemple, on avait un entrepôt à Port-au-Prince, au milieu de la ville. On a ouvert l'entrepôt, on a donné des produits à la Croix-Rouge haïtienne qui a pu les distribuer. On est là, on a des chaînes d'approvisionnement, on a de la logistique. Au Pakistan, on avait une centaine de camions-citernes pour le transport du lait qu'on aurait pu utiliser avec des chauffeurs pour amener de l'eau. On les a mis à disposition, personne ne les a voulu parce que justement ces contacts n'avaient pas été établis au préalable. Finalement, on en a donné quelques-uns au gouvernement.
On s'est méfié parce que vous étiez une multinationale ?
Non, je pense que tout simplement, sur place, les différents acteurs humanitaires, internationaux et locaux, avec les gouvernements, oui, ils discutent entre eux, mais souvent pas avec le secteur privé, alors qu'ils pourraient jouer un rôle.
Bruno Giustiani, c'est un peu le secret de la réussite, c'est de mettre en contact vraiment des acteurs qui parlent de points complètement différents.
Oui, alors nous jouons totalement sur l'éclectisme. Donc à nos conférences qui durent en général 4 jours, on a environ 80 intervenants et ils traitent vraiment de tous les sujets. Et l'idée est vraiment qu'une meilleure compréhension, mais aussi un petit peu une inspiration pour de nouvelles idées peut venir d'une confrontation de secteurs différents. Quand on parle de multinationales, moi, une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'on a cette sorte de préjugés sur les multinationales. Vous l'avez dit vous-même il y a deux minutes, les multinationales, c'est mauvais. La réalité, c'est si on veut vraiment trouver...
Véhiculer donc l'image voilà. Type, hein, le stéréotype.
Exactement. Mais si on veut trouver une solution au gros problème du monde, ben, je vois difficilement comment on peut faire l'impasse sur des structures comme les multinationales qui ont des moyens, qui ont des réseaux, qui ont des infrastructures, qui ont des capacités. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on intègre ce type de dialogue entre les différents partis. Et je pense que là, nous, on essaie en tout cas de jouer un rôle un petit peu aussi dans ça.
Patrick Chapat, si Nestlé vous propose de soutenir un projet pour vaincre les problèmes des sous-munitions au sud Liban.
Non, mais je crois que c'est très intéressant. Mais l'écueil quand même qui est là et dont il faut être conscient, c'est le côté relations publiques. Et si ça se limite à des relations publiques, on a vu ça aussi avec l'écologie. Hein. Ça a été le grand thème sur lequel tout le monde s'est jeté. Et beaucoup de grandes boîtes, on a eu l'impression qu'elles s'accrochaient au wagon pour des raisons de relations publiques. Cela dit, l'humanitaire est confronté à d'énormes problèmes. Genre la crise, ça va être une crise terrible, la crise financière pour l'humanitaire. Elle est confrontée aussi à de plus en plus de problèmes parce que les crises se multiplient, et notamment dans les pays où vous disiez Nestlé est présent. Donc je pense que toutes les aides sont bienvenues. Maintenant j'ai envie, là c'est ma réaction personnelle, j'ai envie de dire formidable Nestlé, et j'aimerais être certain qu'avant de faire de l'aide humanitaire, vous faites tout ce qui est possible par rapport à l'humain. Et là vous êtes extrêmement présent dans tous les terrains par rapport aux communautés rurales, par rapport à l'exploitation des ressources, par rapport au village, par rapport à toutes ces communautés. Et là je pense qu'au niveau des salaires, au niveau des prix qui sont payés, au niveau de tout ce qu'on peut faire pour ces communautés, je ne suis pas persuadé que Nestlé fasse absolument tout.
Vous avez une minute parce que le temps presse malheureusement. Patrick Chapat, on a compris effectivement votre interpellation. Christian Vautiga, bien sûr, votre réponse.
Tout à fait. Non, bien sûr. Et on en fait bien plus. Et justement, avant de faire l'humanitaire, oui, on travaille dans les domaines qui nous approchent. Dans la nutrition, l'eau, le développement rural, on a besoin de chaînes d'approvisionnement, on a besoin de matières premières agricoles. Qu'on transforme sur place, qu'on revend sur place. Il n'y a que très peu de matières premières qui voyagent, et ça, c'est extrêmement important. Et ça m'amène au dernier conférencier, Alberto Cairo, qui disait, bon, une fois que mon patient, il avait ses prothèses, il m'a demandé quoi ? Il m'a demandé un travail pour avoir une certaine dignité, pour avoir un salaire, pour avoir un avenir, pour pouvoir envoyer son garçon à l'école. Et c'est justement là qu'il est important que des compagnies puissent investir au plus bas niveau dans ces pays dans l'avenir. Et c'est là le
véritable travail. Conférencier orthopédiste hein, qui est en Afghanistan, effectivement pour nos auditeurs qui n'ont pas pu suivre la conférence. On s'est bien rendu compte, hein, un chaînon avec plusieurs pièces rapportées qu'il faut mettre ensemble. Je vous remercie beaucoup tous les trois messieurs d'avoir en quelques minutes pu échanger avec nous de l'importance de brasser des idées, des bonnes idées, et puis de les concrétiser ensuite. Bruno Diociani de TED, comme on vous appelle dorénavant. Christian Frutiger de Nestlé et Patrick Chapat. On vous lit demain dans le temps, un dessin ?
Après-demain.
Après-demain. Il est 18h58. Vite, la météo, Sébastien Dupéret.
Du soleil et des grisailles matinales plus ou moins tenaces sur le plateau, c'est le menu dont il faudra se contenter ces prochains jours. L'anticyclone semble finalement se maintenir jusqu'à mercredi au moins et l'arrivée d'un courant plus perturbé a été repoussée en fin de semaine. Demain, un stratus persistant va se former sur le plateau, le nord du Jura et une bonne partie du bassin lémanique. Son sommet se situera vers 1200 mètres, il aura de la peine à se dissiper, surtout au nord. Dans les autres régions et au-dessus de cette grisaille, le soleil continuera d'être généreux, tout comme les températures, surtout en altitude. À l'aube, elles seront juste négatives sur le plateau, alors qu'elles descendront à moins 4 en vallée centrale. Dans l'après-midi, elles seront comprises entre 6 et 8 en plaine, et à 2000 mètres, il fera encore 5 degrés. Mardi et mercredi, les bancs de brouillard se dissiperont plus facilement pour laisser la place à un temps bien ensoleillé. Des précipitations sont attendues pour vendredi.
La météo avec De Villard, du photocopieur à la gestion électronique des documents.
Ce forum, merci de l'avoir suivi. Merci à Sylvain Michel, Mathieu Balmer, Frédéric Tsan qui était à la technique, Raphaël Aubert à l'édition. Passez une excellente soirée. Il est 19h à l'écoute de la première.